podcast. Le podcast hors série. Podcast hors série. Une présentation de Chaloux, le paradis de la bière à Québec. Plus de 1000 sortes de bières pour tous les goûts. De la micro d'exception à la micro de soif parfaite. Deux succursales, Beauport et Saint-Émile. Santé!
Cinquante ans de carrière, c'est cinq décennies, c'est plus vieux que moi. On a une amitié qui dure depuis une décennie. Les occasions de se jaser sont moins nombreuses qu'ils ont déjà été. Fait qu'à chaque fois qu'on a le privilège de s'asseoir ensemble, c'est un cadeau de la vie. Et aujourd'hui, non seulement c'est un cadeau de la vie, mais on n'est pas en virtuel, on est face à face, on est à une coupe de pied de distance. Ça, ces opportunités-là, on les compte sur les doigts d'une main, Pierre-Aude. C'est vraiment le fun de se voir.
Oui, c'est le fun. Et tout ça vient du fait que le Canadien est revenu jouer un match.
Oui.
En fait, c'est pas le Canadien. Ce sont les Sénateurs d'Ottawa qui ont organisé le match en terrain neutre. Mais ça a pris ce prétexte-là pour que je débarque dans vos locaux le lendemain de ce match Canadien-Sénateur.
Ben là, on est rempli d'adrénaline. Hein? On s'est abreuvé à la violence des deux clubs hier. Fait que là, on est full crinqué.
Ben, je trouvais ça plus de la bouffonnerie que de la violence. Si tu me permets l'expression. Mais c'est un grand plaisir. Puis si tu regardes ça, moi j'aime beaucoup jouer avec pas les chiffres seulement, mais aussi avec la façon de parler des chiffres. C'est quand même 20% de ma carrière que j'ai passé avec toi. C'est wow. Pas rien 20%.
Non.
Quand tu mets ça de même, là.
Je suis quasiment ému. Pierre, t'es-tu capable de te souvenir... La première fois que tu as dit un jour, je veux être, c'était quoi? Quand tu étais petit cul, là. Mm-hmm. La première passion ou la première pulsion que tu as eue avant n'importe quelle autre, ça a été laquelle?
Je voulais être chauffeur d'autobus.
Oh yes!
Oui. Écoute, j'étais fasciné par les autobus parce que j'ai assez d'âge pour avoir connu le début de ma vie sans métro. À Montréal, sans ouais. métro, sans... on avait les trains de banlieue, ça c'est vrai, déjà à l'époque, dans une version évidemment un peu plus modeste. Mais j'étais fasciné par les autobus, et parce que les mœurs étant ce qu'ils étaient à l'époque, à l'âge de 6 ans, je suis parti de la maison familiale à Duvernay, en banlieue de Montréal... J'ai pris l'autobus de Duvernay, je suis allé à Henri Bourassa où il n'y avait pas de métro, mais c'est là que le terminus d'autobus était situé. Après ça, je prenais l'autobus Gouin pour aller jusqu'au Parc Belmont, puis du Parc Belmont, sur le bord de la rivière des Prairies, j'allais chez ma grand-mère à Ville-Saint-Laurent. J'ai fait ça pour la première fois à 6 ans, tu t'imagines? Alors, ça veut dire que j'ai été non seulement exposé aux transports en commun et aux autobus, mais je m'assoyais toujours sur le premier banc en avant, puis je regardais le chauffeur, puis j'étais fasciné. Alors, mon premier, le premier emploi que je visais, c'était chauffeur d'autobus.
Y a-t-il un monde parallèle où Pierre-Aude est devenu chauffeur d'autobus puis c'est un homme heureux?
Ben oui. J'ai toujours été fait, dans le fond, pour avoir quelque chose entre les mains, pour mener quelque chose.
Ouais, ouais.
Alors, j'ai fait de la moto, uh-huh. J'ai fait de l'avion. J'ai jamais vraiment eu de bateau, mais j'ai souvent loué des embarcations. J'adore piloter une embarcation. Je pense que quelque part, j'étais fait pour ça. J'étais fait pour vivre ma vie en déplacement, mais en ayant un certain contrôle sur les choses. Donc, j'adorais la liberté de me promener, mais j'ai toujours adoré aussi avoir un certain contrôle sur ma vie.
C'est drôle parce qu'on pourrait faire une image puis dire que quand nous autres, on regarde un match du Canadien ou un Grand Prix de F1, on embarque dans ton autobus puis c'est toi qui as les mains sur le volant.
Oui, ben en fait, si tu regardes ce que je fais presque quotidiennement, ben un peu la même chose pour toi, Denis, mais moi, c'est peut-être encore plus vrai, là, c'est peut-être encore plus stéréotypé. C'est vraiment... je suis vraiment celui qui conduit, mais qui, en même temps, reconnaît l'importance de ses passagers. Mm-hmm. Et je laisse beaucoup de place à mes passagers parce qu'ils sont essentiels à l'événement qu'on couvre. Mais si tu me demandes où où va mon naturel, où va où je suis heureux, je suis heureux d'être dans ce siège-là, dans le siège du conducteur, comme on dit, non pas par gloire, non pas par satisfaction épidermique, là. Non, pas du tout. Juste parce que je me sens à l'aise comme ça et j'adore avoir les gens à qui je passe la rondelle.
Ben écoute, j'ai presque le goût de poursuivre dans cette image-là parce que des fois, il y a des gens qui vont se retrouver dans le siège du conducteur. On va sentir qu'ils sont nerveux, on va sentir qu'ils sont pas à l'aise. Puis en tant que passager, on se sentira pas en sécurité, entre guillemets. Puis c'est vrai pour les politiciens, c'est vrai pour les gens qui font le métier que tu fais aussi. C'est on doit se sentir en sécurité lorsque la personne a les deux mains sur le volant. Puis c'est ce sentiment-là, je trouve, qu'on a développé avec toi au fil des années en tant que téléspectateur, autant pour la F1 que pour le hockey, que pour les grands événements sportifs. Est-ce que tu as eu l'impression, toi, que dès que tu es arrivé, tu avais les deux mains sur le volant fermement ou c'est quelque chose qui, au fil des années, t'as réussi à acquérir?
Bien, c'est une très bonne question, mais il y a comme deux réponses. Il y a ma portion radio puis ma portion télé. Mm-hmm. La portion radio, en tout cas, moi, quand j'ai commencé à faire de la radio, Denis, bien, toi aussi, on était tout seul dans notre studio, là. On tournait des disques ou des disques au laser ou des cartouches et puis on faisait la mise en onde tout seul. Ouais. On faisait l'animation tout seul. On répondait au téléphone. La plupart du temps, on lisait le bulletin de nouvelles aussi. Donc, écoute, si t'étais pas... si t'étais le moindrement timide sur le plaisir, la confiance en soi de mener ton bateau, ben tu frappais dans le mur parce que tu faisais tout. Alors, ça prenait un peu de... Ça prenait de l'inné pour avoir ce goût de mener les choses soi-même. Quand je suis arrivé en télévision, parce que j'ai commencé à en faire à la pige, mais quand tu en fais à la pige, tu comprends pas complètement. Quand tu arrives à la télé à temps plein, puis que tu laisses la radio, tu arrives à dire « Oh, OK, là, c'est complètement différent. Je mène mon petit maillon de la chaîne, mais tu mènes pas la chaîne au complet. » Je sais pas si tu comprends ma
très
nuance.
Bien, très bien.
Donc, je vais mener ce que je peux mener, mais je ne serai jamais plus fort où je n'aurai jamais la prétention que je mène la chaîne au complet. Parce que quelque part, il y a un directeur, il y a un réalisateur, il y a un producteur, il y a une personne à la caméra, il y a quelqu'un à l'audio. T'es un maillon de la chaîne. Donc, tu t'arranges pour le mener le mieux possible, ce maillon-là. Et comment tu le mènes le mieux possible? Ben, c'est avec plein d'ingrédients. La passion, la préparation, le refus d'être médiocre.
J'ai deux enfants de 12 et 10 ans, puis je les vois aller, puis c'est souvent ça avec des petits gars qu'on me dit, il y a une rivalité qui s'installe rapidement. Étais-tu en rivalité avec ton frère
avec
quand vous étiez petit?
Bien sûr, puis on a été en rivalité, pardon Denis, encore plus quand on a abouti dans la même chambre, quand ma sœur est arrivée, parce qu'on avait la maison familiale typique, on avait trois chambres à coucher, le petit bungalow à Duvernay, et puis on avait chacun notre chambre au début, puis les parents avaient la troisième, puis là, ben écoute, la petite sœur arrive, ça y prend sa chambre tout seul.
Oh, que ça n'a pas dû faire le bonheur des deux, ça.
Alors, les deux gars, vous en allez. Ben, ça a fait le bonheur, oui, puis non. Est-ce qu'il y a eu des moments de tension? Bien sûr, mais... Encore là, si tu m'avais posé la question il y a 40 ans, j'aurais eu une réponse différente, probablement. À l'âge que j'ai, puis parce que Paul est parti, puis Paul fait maintenant partie de mes souvenirs, Paul est maintenant un guide spirituel pour moi. Tout ça, évidemment, ça n'existait pas à l'époque. Mais il y a eu aussi de grands moments de bonheur à travers tout ça. Puis c'est ça, souvent vieillir, là, c'est pas agréable, mais il y a des bons côtés à avancer dans la vie. C'est que tu commences soudainement à mettre les choses à la bonne place. On a eu des fous rires incroyables. Mais je te dirais, Denis, puisqu'on parle de nos carrières, c'est là, dans le fond, qu'on a germé nos carrières.
Ouais.
En écoutant la radio sur nos petits transistors, en parlant de radio, en imitant les annonceurs qu'on aimait. Et on préparait nos carrières sans le savoir.
Est-ce que vos carrières auraient pu s'inverser? Je t'imagine faire de l'humour.
Bien sûr. La plupart des gens pensent que on a vécu... La plupart des gens pensent que mon parcours et celui de Paul auraient dû être complètement l'inverse. Complètement. Parce que Paul est extrêmement drôle, était un imitateur hors pair. Uh-huh. Je pense qu'on l'a sous-estimé dans l'apport, dans son apport à l'humour au Québec.
Je connaissais pas cet aspect-là de ton frère, puis ma blonde est une collectionneuse. Elle a dépoussiéré un vieux 45 tours qui date du début des années
80. Ça s'appelait « Les gens qui défont l'événement ».
Exactement. Ouais. Puis moi, ma génération, c'est François Pérusse là, qui se parle tout seul et qui se répond. Et là, c'est ton frère qui imite plein de monde que je connais. Il y avait Claude Poirier, il y avait des politiciens.
Ah, de Claude Poirier à Gilles Villeneuve, à René Lecavalier.
Je suis tombé sur le dos.
À René Lévesque, oui.
Puis je me disais, OK, wow, tabarnouche. Puis j'ai pensé à toi aussi en écoutant ça récemment, parce que je me disais, Pierre a ça aussi en dedans de lui, puis il aurait été capable de s'amuser puis d'évoluer dans cet univers-là.
J'aurais peut-être été plus à l'aise dans certains contextes. Paul, la radio était faite pour lui parce que Paul était dans son cocon rassurant dans un studio de radio. Il a fait de la télé, bien sûr, parce qu'il était en demande.
Ouais.
Mais probablement que moi, j'aurais été plus naturel, exemple, sur une scène. On m'a déjà dit que j'avais la mécanique de l'humoriste.
Okay.
Le stand-up comique, ouais, comme on dit. Tu le sais, ça prend une mécanique. Il y a un moment où tu te tais et tu laisses la foule réagir. Puis après ça, tu fais une mimique. Puis là, tu vas chercher l'énergie avec la foule. Je l'ai naturellement. Mais je ne l'exploite pas parce que c'est pas mon pain puis mon beurre. Paul avait pas nécessairement ça, mais Paul avait un raffinement d'imitation qui était incroyable. Et tous les deux, et là, ça a commencé à l'enfance, on a développé très, très jeune une faculté de caricature qui est absolument incroyable. Et souvent, moi, j'étais celui qui alimentait Paul.
Mm-hmm.
OK, Paul, tu veux faire, je sais pas, moi, le maire Drapeau. Et Paul a été le premier, d'ailleurs, à imiter le maire Drapeau. Je disais, ben, oublie pas ça. C'est le maire Drapeau, il fait souvent ça. Puis ajoute donc ça. Et puis là, il ajoutait.
Okay. Alors, tu coachais.
Oui. Alors, il y avait ça aussi. C'était pas juste la rivalité.
Uh-huh.
Mais si on parle de mes 50 ans de radio aujourd'hui, Denis, c'est parce que Paul a fait des spectacles d'imitation à la Polytechnique où il étudiait en génie. Alors, Paul a commencé à faire des spectacles d'imitation. Puis il y a quelqu'un qui a dit à la direction de CKAC, vous cherchez des jeunes humoristes parfois pour les émissions du matin ou même dans le réseau. Vous devriez rencontrer ce gars-là, il est incroyable. Et Paul a eu une audition, il a commencé, puis parce qu'il est allé dans le réseau, ben moi j'ai continué dans son sillon.
La vie t'a amené plein de défis, t'a amené plein d'aventures. Y a-tu un moment que tu te rappelles, peut-être dans ta jeunesse, peut-être plus tard, où t'écoutes René Lecavalier qui décrit une game de hockey? Puis à un moment donné, il y a peut-être un éclair ou un bout de conversation, quelqu'un qui te dit « Hey Pierre, je te verrais faire ça » ou toi personnellement dire « Hey, un jour, je vais décrire le hockey du Canadien ». Est-ce qu'il y a eu un épisode comme celui-là? Ou...
Non, parce que c'était le chemin de Paul, ça.
Encore?
Ben, c'est parce que, tu sais, dans le bain le samedi soir,
ouais.
Dans l'ordre, c'était ma sœur, moi et Paul. Puis là, ce que je me rappelle, c'est que Paul, parce que souvent, le bain était à l'heure du hockey le samedi soir, Paul imitait René Lecavalier. Puis il décrivait un match de hockey dans le bain. Fait là, quand tu penses des souvenirs que j'ai qui me reviennent automatiquement. Et je vais même aller plus loin que ça, Denis. Quand j'ai eu ma première proposition pour faire de la pige au sport à Radio-Canada, j'étais animateur à C'est quoi les fins de semaine. Puis là, c'était le C'est quoi. Genre, même pas classique rock, là. On était le chaume de Montréal en français, là, tu sais, là. Et puis, fait qu'on avait un son assez particulier, assez musclé. Donc, c'était pas exactement une station sport ou affaires publiques, là.
Ouais.
Et il y a un réalisateur de Radio-Canada qui m'a entendu faire un petit bulletin de sport que je faisais les matins de week-end. Puis il a dit, écoute, je cherche quelqu'un pour faire de l'analyse au football américain. Je t'écoutais et puis je cherche des nouvelles personnes et vraiment, j'aimerais ça te donner une chance. Sais-tu quelle a été ma première réaction? Ah, ben c'est gentil, mais vous devriez parler à mon frère.
Ah oui!
Et Julien Dion, le réalisateur qui est décédé, à qui je dois beaucoup, à qui je dois mes premières opportunités, il me le remettait souvent dans le visage. Puis il disait, tu réalises-tu que tu m'as vendu ton frère d'abord et avant tout, avant d'accepter toi-même. Ben, je disais, écoute, ainsi était la vie à l'époque. Ouais. C'était... Et puis moi, j'étais déjà à l'université en gestion. Mm-hmm. Fait, je me voyais peut-être, je sais pas, comptable agréé, gestionnaire de ci et de ça. Éventuellement, je me voyais plus gestionnaire en radio plutôt que, qu'artiste, plutôt qu'animateur. Puis regarde comment la vie a bouleversé ça. Ouais. Ouais.
Mais parce que, bon, tu dis... c'est carré en tabarnouche, comptable agréé pour... Moi, je te connais comme un artiste. Je te connais comme un amateur des arts aussi. Je te connais comme un tripeux de musique. Mmh. Je pense que c'est à ce moment-là, quand on a échangé sur la musique ensemble, qu'on a vraiment connecté.
Oh, mais en, mais en.
Parce que là, on a vu qu'on avait beaucoup, beaucoup d'influences communes, beaucoup d'artistes préférés communs aussi. La musique a toujours eu une place importante dans ta vie, puis ça a-tu été même, je pense, avant le sport? Oh, ben, influence qui a été plus forte pour toi?
Ça remonte à mon arrière-grand-père, Denis. Mon arrière-grand-père gagnait sa vie comme prof de musique. Mm. Hey, c'est quelque chose, là tu remontes là, très, très loin. Et d'ailleurs, la nuance, ou en fait l'explication de son gagne-pain, c'est qu'à l'époque, on cherchait beaucoup des organistes pour jouer des grandes orgues,
oui.
Dans les églises particulièrement. Alors, mon arrière-grand-père était excellent prof pour apprendre les grandes orgues,
wow.
Mais il touchait déjà les instruments avant. Et donc, il était un excellent saxophoniste. Et puis, mon grand-père, Frédéric, qui était comptable et qui était un homme d'affaires assez austère, était aussi un merveilleux saxophoniste. Mon père, tu le sais, le saxophone, la clarinette. Donc, on a ça dans les gènes de la famille, mais vraiment, vraiment. Et c'est clair que la fibre artistique, elle a toujours été très forte. Vous connaissez la carrière de Paul, puis ma sœur aurait très bien pu faire le métier aussi. Elle a choisi de ne pas s'en aller dans l'Ouest canadien pour faire la radio de Radio-Canada en français là-bas, mais elle a quand même gravité toute sa vie dans les communications et...
50 ans de carrière, as-tu encore le temps d'en écouter de la musique? Y a-tu un album qui est ton go-to encore? Un album que t'écoutes ou un artiste que t'écoutes ou peut-être une toune
un
que...
Un show.
Un show? Lequel?
Le Finally the Farewell Tour de Phil Collins. Qui était finalement pas vraiment son vrai, mais celui enregistré à Bercy.
Oui.
Ça, c'est mon réconfort. Et je sais jamais quand j'en ai besoin, mais je sais que le show est là. C'est aussi facile à trouver. En fait, jusqu'à Nouvelle-Orde, on le trouvait facilement sur YouTube.
Oui.
Là, je pense qu'il y a des pubs maintenant qui entre chaque segment. Mais c'est correct.
On ne veut pas le payer personne, le YouTube.
Ben voilà.
Hein,
c'est alors, on va vivre avec ça. mais oui, donc, moi, dans mon cas, là, je te dirais dans les 15-20 dernières années, en tout cas dans les 15 dernières années, peut-être, c'est mon show refuge. Puis des fois, là, je me surprends moi-même au moment où je le consomme, ce show-là. Mais je sais pourquoi je le fais et je sais que quand je le commence, peu importe l'heure, je vais le finir jusqu'à la dernière seconde.
Je te porte une observation. T'es un gars terriblement versatile et terriblement appliqué. Je suis pas surpris que tu me parles d'un artiste terriblement versatile puis terriblement appliqué. Phil Collins était batteur, Phil Collins était acteur, Phil Collins est devenu chanteur.
Ouais.
Il a réussi à briller dans toutes ces sphères-là.
Oui, puis Phil Collins a été... Il a été avec Genesis. Ça a été un moment important de radio pour moi.
Okay.
Parce que quand je suis arrivé à C'est quoi, en 78, je sortais de la radio AM. Donc, moi, j'avais fait la radio, la grande radio AM, CKC à Montréal, qui était CKCV, mettons, ici à Québec, ou CHRC, peu importe. Mm-hmm. Et puis, on jouait de la musique, mais c'était de la musique, c'était Mireille Mathieu, là, puis Gérard Lenormand, puis tu vois le genre.
C'était pas Yes, puis Gentle
Giant. Non, vraiment pas. Après ça, je suis allé à CKVL au service des sports pendant un an. Et là, on me dit, tu vas aller à C'est quoi? Wow, OK. Oui, j'avais mon band rock, mais moi, je sortais beaucoup du rock des années 60 et du folk des années 60-70. Là, quand j'embarquais dans le Supertramp, dans le Genesis, puis quand on embarquait surtout dans les groupes québécois qui ont fait un album, là, le Pou, Slush, tu vois ce que je veux dire?
Oh, oui.
Je me sentais un peu perdu. Et c'est drôle à dire, hein? J'allais tous les soirs après mon université, j'allais à C'est quoi, puis je disais à l'animateur, est-ce que je peux prendre la pile ici, de A à D? OK, vas-y, je les joue pas ce soir. Puis là, j'apportais tous les albums dans une salle d'écoute l'autre côté. Puis là, j'écoutais systématiquement toutes les pièces qui étaient aptes à jouer.
Wow!
Pour essayer de me faire...
De faire l'oreille. Mais, puis de faire une tête.
Et en même temps, des fois, de reconnaître une pièce dont je connaissais pas le titre. Mm. Ou je me doutais pas que c'était ce groupe-là qui interprétait ça. Mais est arrivé le « And then there were three »,
oui.
Est arrivé le départ de Peter Gabriel. Mm-hmm. Je savais qu'est-ce que Genesis représentait pour Montréal et pour le Québec. Et je me suis dit, cette histoire-là est fascinante. Et donc arrive toute l'histoire où Phil Collins devient le chanteur. Et arrive un moment où je suis invité à un party privé de Genesis un dimanche soir après un show à Montréal.
Wow.
Alors, écoute, je peux pas dire que j'ai passé la soirée à discuter avec Phil Collins, là, mais j'étais quand même avec eux, avec tous ceux qu'ils avaient invités. Mais je sais pas, c'est peut-être un peu embrouillé ce que je te raconte, mais j'ai déjà comme un lien très fort à ce bout-là de ma carrière qui s'est avéré avec les années, ça a duré 2-3 ans, probablement le plus beau moment de radio que j'ai vécu parce que on choisissait nous-mêmes notre musique et on bâtissait le contenu de nos émissions. Puis après ça, ben là, tu peux faire le lien.
Mm-hmm.
Batteur, chanteur, et plus loin que ça, capable de chanter ou de jouer la batterie sur à peu près n'importe quoi.
Ouais.
Écoute, reprendre Diana Ross, là, puis chanter quelque chose d'aussi pété qu'In the Air Tonight, ça prend un talent absolument remarquable.
Dans la biographie de Phil Collins, à un moment donné, il disait, dans les années 80, je refusais jamais une opportunité, je refusais jamais une job, puis j'apprenais ce que j'avais à apprendre après avoir dit oui. T'es venu faire une conférence à Leclerc Communication, puis c'est une des phrases, moi, que j'ai retenues de ton parcours, de dire « j'ai jamais refusé une opportunité ». Une des choses que t'as faites qui m'impressionne le plus, c'est diriger le Grand Prix, préparer le Grand Prix de Montréal. Quand t'as dit oui pour ça, là, en frais de pourcentage de connaissances, de savoir ce que t'allais avoir à faire, on est dans quel pourcentage à peu près, là?
Ben, écoute, j'en savais déjà un peu sur l'univers du Grand Prix du Canada.
Évidemment.
Mais sur le grand univers de la F1, je connaissais seulement de nom, les principaux acteurs, à commencer par Bernie Ecclestone, à commencer par les grandes écuries, la Fédération internationale. Je savais que tout ça existait, Denis, parce que par mes rôles de gestion à la radio, on avait été fortement impliqués dans le Grand Prix du Canada en 82. Malheureusement, le Grand Prix où on a perdu Gilles, hein, quelques semaines avant le Grand Prix à Montréal. Alors, ça, J'ai embarqué à pieds joints dans l'univers de la F1 dans un contexte quand même très dramatique.
Mm-hmm.
Donc, j'avais quand même une certaine connaissance à ce moment-là. Et ce qui m'a vraiment amené là, c'est qu'en 84, il y a quelqu'un dans l'organisation du Grand Prix qui a dit « On va demander au CRTC si on pourrait pas opérer le système d'adresse au public ». Si on pouvait pas l'opérer sur la bande FM.
Okay.
Et il restait la fréquence 91.9 à l'époque, qui était libre. Et le CRTC a dit, écoutez, pour 3 jours, on va vous permettre, on va vous permettre ça avec 5 watts de puissance.
Oh là là!
Ou est-ce que c'était kilowatt ou watt? En tout cas, bref, je m'excuse auprès de ceux qui connaissent ça. Mais un minimum de puissance pour à peu près restreindre ça, là.
Ça dépassait pas l'île.
À l'île Notre-Dame.
Ouais.
Et donc, à cause de 82, puis à cause des personnes que je connaissais, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu bâtirais ce projet-là? Mais on n'a pas d'argent. Ah, je dis, bon, vous n'avez pas d'argent. Avez-vous au moins une console?
En avais-tu? Toi non plus? Hein? Non,
et moi, j'en avais pas. En 84, j'en avais pas beaucoup. J'étais déjà marié depuis 78, imagine. Voilà, donc, quand tu parles des opportunités.
Ouais.
Je sais pas, quelque chose me dit... Ouais, va bâtir ce projet-là. Va-t'en, là, vivre.
Hey.
le Grand Prix du Canada de l'intérieur. Va le vivre, va voir, va stimuler ton intérêt, ta passion.
Mais ça prend du courage en tabarnouche parce que tu peux te casser les dents.
Oui, mais ça, c'était temporaire, Denis, parce que ça, c'était juste 3 jours. Alors donc, j'avais pas de risque. J'étais déjà à CFGL, j'étais directeur du marketing, j'animais les fins de semaine. Mm-hmm. Donc, il y avait pas de risque pour moi. Mais quelque chose m'attirait vers cet univers-là. Et c'est après avoir fait ça, j'ose le dire avec du succès, que lorsque la direction générale est devenue libre en 85, on a pensé à moi et on me l'a offert. Et là, par exemple, c'est plus compliqué comme décision parce que j'étais très bien enraciné à CFGL, qui est Rhythm FM aujourd'hui. Et je me suis dit, si je dis pas oui maintenant, un, ça reviendra pas. Puis deux, je pourrais pas dire oui dans 15 ans, dans 20 ans. Alors, j'ai dit, OK, je saute et je vis l'expérience.
Au fil des années, depuis la petite décennie qu'on se connaît, j'ai vu qu'on connaissait sur la musique, mais je t'ai découvert, et ça, je le savais pas, que tu étais un passionné de radio, que tu avais fait une grande partie de ta carrière à la radio, puis que tu t'ennuyais de la radio manifestement, parce que je sais qu'on est bien gentils, moi, Véro, puis Audrey, mais au-delà de ça, je pense que de retrouver le terrain de jeu de la radio, ça te faisait plaisir. Veux-tu bien me dire comment la TV a fait pour réussir à t'arracher à la radio?
Ben, écoute, y a eu plusieurs choses qui sont arrivées en même temps, mais je te dirais que quand l'opportunité RDS est arrivée, il n'y a jamais été question pour moi de rompre la radio. Mm-hmm. D'ailleurs, pour m'amener à RDS et me sortir du service des sports de Radio-Canada, parce que j'avais accepté d'aller vivre l'expérience-là, c'était un peu mon rêve d'enfance, j'ai eu une offre conjointe de CFGL et de RDS. Ça donne que les deux grands patrons étaient de bons amis. RDS cherchait son descripteur de hockey. Puis M. Saussier à CFGL voulait me ramener parce qu'il m'aimait bien. Et alors, tu vois, donc dans mes premières années de hockey à RDS, c'était le meilleur des deux mondes que j'avais. Bon, CFGL a été vendu à Cogeco, les choses ont changé beaucoup et on m'a offert à ce moment-là d'aller rejoindre Paul à CKAC, Paul animant le matin, et moi le retour à la maison, à la grande antenne de CKAC, et en me disant, on va bien vivre avec tes absences ici et là pour le hockey à RDS. Ce qui a été un merveilleux parcours pendant un bout de temps, jusqu'à la grande fusion des deux grands réseaux. Mm-hmm. Puis moi, ben écoute, je suis passé dans fusion. Il y avait de la place seulement pour une personne sur deux. Et donc, j'ai cessé un peu par accident à faire de la radio, mais en même temps, c'était comme prédestiné parce qu'RDS grandissait sans cesse. Puis RDS faisait l'acquisition de propriétés. RDS est allé chercher la F1. RDS a commencé à diffuser 50, 60, 70 matchs, une ronde éliminatoire, deux rondes éliminatoires, trois rondes éliminatoires, éventuellement l'exclusivité pendant 12 ans du hockey, tous les Grands Prix d'F1, et donc j'aurais plus le temps de le faire. Mais à la base, je n'ai pas sauté dans l'aventure de RDS en pensant que j'allais laisser la radio. Okay. Et c'est arrivé malheureusement comme ça.
La tendance de la radio est au talk radio. Est-ce que tu aurais été à l'aise de faire de la radio avec de l'éditorial politique, par exemple? Puis sans tomber dans la radio de Québec, EV, puis tout ça, mais tu regardes une carrière comme celle de Paul Arcand, par exemple. Est-ce que tu aurais été à l'aise dans ce genre de siège-là?
Ma première réponse, c'est non. Uh-huh. Mais en même temps, Denis, je pensais jamais que mon frère aurait pu faire le saut du Morning Man avec les grosses têtes puis faire des imitations vitrioliques de différents personnages. Et du jour au lendemain, passer à une émission d'affaires publiques, le grand retour à 98.5 et sur le réseau de Cogeco. Et tu vois, Paul a fait la transition parfaitement. Donc, si j'avais été face à ce choix-là, est-ce que j'aurais pu réussir? Si c'est ça ta question, peut-être. Est-ce que à la base, je me dis, oh, je serais vraiment bon pour ça? Je pense que non. J'ai beaucoup de difficultés à être tranchant. C'est pas ma nature. Ouais. Dans une autre discussion qu'on a eue, je disais souvent que moi, j'ai vécu et je vis encore ma vie beaucoup à l'horizontale. J'aime toucher un peu de tout. J'aime apprécier d'abord et avant tout les choses que la vie m'amène. Puis j'ai beaucoup de réticence à aller vers la plus grande profondeur. Peut-être de peur d'être déçu, peut-être de la peur de m'affirmer, de livrer mes convictions, mm-hmm. mes convictions spirituelles, mes convictions sociales, économiques et éventuellement donc politiques. J'aurais peut-être un peu de misère avec ça.
Puis en même temps, le sport, c'est comme ce qui réussit à rassembler probablement le plus la gauche et la droite.
Oh.
À un moment donné, moi, je voulais faire un podcast, puis je me disais, on va prendre deux personnes complètement à l'opposé au niveau politique, puis je me disais, on va le faire chacun prendre une ou deux pintes de bière, puis après ça, on va trouver un point commun, puis on va commencer la discussion avec ça.
Mm-hmm.
Puis dans mon concept, je voyais deux possibilités, le sport ou la musique.
Oui.
Tu vas voir un show de Pink Floyd, il y a des gens à gauche, il y a des gens à droite, il y a des gens au centre, il y a des gens engagés politiquement, il y a des gens désengagés politiquement. Puis le sport fait ça aussi. Le sport est rassembleur. Puis ça doit être réconfortant, dans une certaine mesure, de te dire, moi, je fais partie des rassembleurs. L'activité à laquelle l'activité que j'anime, l'activité que j'encadre, l'activité pour qui je suis le descripteur, l'analyste, que ce soit la F1, que ce soit le hockey, que ce soit les Olympiques, moi, je rassemble les gens. Mmh. Je veux dire, c'est quelque chose que, sans dire que je suis jaloux, à partir du moment où tu te trempes politiquement ou tu fais de la radio engagée, que ce soit avec force ou pas, tu vas toujours être teinté dans une certaine mesure.
Oui.
Quelqu'un qui baigne dans le sport puis dans la passion commune, il n'y a pas ça. Je trouve que c'est un beau privilège.
Ah, c'est un privilège. Je l'ai toujours reconnu et j'ai toujours été extrêmement reconnaissant de pouvoir œuvrer dans l'univers de la télévision avec le rôle que j'ai. Écoute, des fois, c'est très touchant. Je vais t'avouer qu'avec beaucoup d'humilité, j'accepte les compliments qu'on va me faire. Parfois, j'ai beaucoup d'amis médecins. Et puis, comme tu sais, ma fille est en médecine. Puis
ouais.
Souvent, je me dis, écoutez, je fais tellement rien pour la société par rapport au sauvetage que vous faites à tous les jours, sauver des vies, améliorer la qualité de vie des gens sur le plan physique, sur le plan psychologique. Et souvent, la réplique du monde médical, c'est « Ouais, mais t'as pas d'idée à quel point t'es réconfortant tous les deux jours. » Et au début, je disais « Ouais. » Avec le recul de Nip, avec 50 ans de métier et 37 ans de hockey, je l'accepte maintenant, le compliment. Je l'accepte avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup d'humilité aussi, mais je comprends ce qu'ils veulent dire. Mais garde, je vais te revenir sur ta question tantôt. C'est pas les politiciens qui me font peur. Ça me tente pas de parler de la... je sais pas comment le dire, là, de la... J'ai rien que le mot anglais, mais je le dirai pas. La machine politique.
Ah, c'est bien ça.
Ça me tente pas.
Mm-hmm.
François Legault était au HEC en même temps que moi.
Ouais.
Savais-tu ça?
Non, je savais pas.
Ben moi, mon plaisir que j'aurais, c'est pas savoir le troisième lien, et puis l'avenir, comment sont les finances du Québec,
uh-huh.
et votre prochaine campagne électorale. François, on s'est croisé au Café Campus à un moment donné, c'est sûr. Et là, j'aimerais partir dans cette direction. Je sais pas si tu comprends ma nuance.
Oui.
C'est pas la politique, c'est pas la religion, c'est mm-hmm. pas la, c'est pas les grands courants sociaux qui me font peur et que je ne veux pas m'exprimer. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est l'humain qui m'intéresse. Et je sais pas si tu écoutes Access TV, c'est une antenne, en tout cas, qu'on a sur certains distributeurs au Québec. C'est un mélange de show rock, de
oui,
vieux rock.
Oui.
Ils font aussi le décompte de chaque année. Mais Dan Rather, écoute, est-ce qu'il y a plus austère que Dan Rather comme lecteur de nouvelles aux États-Unis pendant des années à CBS? Qu'est-ce qu'il fait, Dan Rather? Il fait des grandes entrevues avec tous les grands rockers
ben oui.
de son époque. Et là, tu fais, ben voyons donc, ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est du bonbon, puis tu vois qu'il s'amuse. Moi, c'est cet univers-là que j'aime et dans lequel je suis à l'aise.
50 ans de carrière, on regarde souvent les moments les plus forts, les moments les plus intenses, puis on fait ça un peu dans la nostalgie. Hein? On regarde les sommets, puis on idéalise un peu. Les bouts les plus rough au niveau de ta carrière, ça a été quoi? Y en a-tu?
Ouf, ben y en a eu, oui. C'est parce que souvent, les bouts les plus difficiles, Denis, sont liés à tes bouts difficiles personnellement.
Mm-hmm. C'est dur de délier les deux.
Ben, c'est impossible.
Ouais.
Puis dans une autre conversation qu'on a eue ensemble, toi aussi, tu t'es ouvert là-dessus.
Ouais.
Moi, dans mon cas, j'ai été chanceux, j'ai pas eu à combattre la maladie.
Mm-hmm.
J'ai jamais été vraiment malade, sauf mon épisode de Zona il y a quelques semaines. Donc, dans la case « je suis chanceux », je coche. Bon, des moments difficiles. Dans les premiers mois de ma carrière, ma carrière, c'était même pas ma carrière, j'étais étudiant. Dans les premiers mois, à Sécassé, on a dit « ouais, ben, tu sais quoi, t'es bon, mais là, tu veux 20$ de plus pour ton émission ?» Bye bye!
Okay, ciao, bye!
Bon,
tu
alors.
Tu vaux pas ce 20$-là.
Alors, mais ça, c'est des choses avec lesquelles je peux composer parce que ma première réaction, au lieu de dire, au lieu de tout renverser sur le bureau du directeur, je dis, ben écoutez, je dis, vous savez quoi? Je vais être votre premier homme à venir remplacer quand quelqu'un va être malade. Vous allez voir, vous allez m'appeler bientôt. Et il m'a appelé bientôt.
Voilà.
Et je suis retourné. Et ça a duré. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu de difficile? La fusion.
Mm-hmm.
La fusion s'est cassée, ben, parce que là, tu savais plus... J'avais la moitié de ma vie qui était en l'air, je ne savais pas ce qui arriverait. La perte des droits exclusifs du hockey, quand TVA Sport est arrivé...
J'ai compris dans ce bout-là, Pierre, qu'à un moment donné, il y avait des possibilités qu'il n'y en ait juste plus du hockey du Canadien à RDS?
C'était le premier écho que j'ai eu, c'était ça.
Ouais, hein?
Et les premiers qui m'ont téléphoné, c'est vos collègues de Radio-Canada à Québec, Claude Bernatché.
Oui, oui.
Et sa recherchiste m'appelle, ben, dit « Pierre, veux-tu commenter la triste nouvelle? » Là, il est 7h le matin, je suis même pas réveillé pour chaume que je fais à 8h30.
T'étais pas au courant de la triste nouvelle?
Ben, moi, je pensais qu'il y avait un grand joueur était décédé. Monsieur Béliveau commençait à être malade à l'époque.
Oui.
Alors, je me suis dit, oh non, c'est pas vrai. Alors, je dis, mais de quoi? Ben voyons, vous avez probablement plus de hockey à RDS à partir de l'an prochain. Et là, je me rappelle physiquement, mes deux jambes m'ont laissé.
Hey.
Je suis tombé assis sur ma chaise de bureau. Et là, j'ai pensé à Michel qui dormait dans sa chambre au sous-sol, parce que Michel était à l'époque au secondaire. Elle avait déjà... Donc, j'ai pensé à tout ça. Là, après ça, OK, bon, OK, je suis pilote. Je peux créer ma compagnie d'aviation. J'ai toujours rêvé de faire ça. OK, ça va être mon projet. Et là, ça se met à patiner dans ma tête. Ça a été un moment très difficile. Et ça a duré, Denis, presque 3 mois... jusqu'à ce qu'on sache exactement ce que RDS allait conserver. Sur le plan personnel, écoute, j'ai vécu 2 divorces, 4 séparations de couple. C'est jamais facile.
Mm-hmm.
Puis tu sais que je veux pas en parler.
Mm-hmm.
Trop en détail, mais je dirais que y a eu des bouts extrêmement difficiles où j'étais heureux d'avoir mon travail et de me réfugier dans mon travail.
J'allais te poser la question, dans ces circonstances-là, est-ce que la job est devenue un refuge?
La job et ceux qu'il y avait autour.
Ouais.
Je dois t'avouer que j'ai été chanceux encore là d'avoir des collègues extraordinaires. Ma proximité avec Marc au cours des dernières années a été providentielle parce que je dois t'avouer que ça a été surtout ces moments-là qui ont été les plus difficiles.
Vous êtes cute en bon lieu quand vous êtes un à côté de l'autre en passant, ben, puis on voit que vous avez bâti une relation qui va au-delà du travail. Ça fait drôle à dire, hein? Je vous ai vu à l'antichambre, un à côté de l'autre, puis je me disais, ouais, eux autres, ils ont dû vécu ensemble.
Ouais, mais Denis, toi puis Véro, là, OK, moi, j'ai pas été un couple avec Marc, mais...
Écoute, tout est permis.
Non, mais alors avec Marc, je peux te le dire tout de suite, mais ça se ressemble beaucoup, Véro et toi, mm-hmm. et Marc et moi, parce que c'est au-delà de la performance de communication. Tu sais, ils appellent ça de la chimie, de l'amitié, de la compréhension, de la complémentarité. Bref,
ouais.
Tous ces termes-là sont valables. Mais dans le taxi qui t'amène à l'aréna, puis que tu souffres terriblement, et encore là, avec le recul, je me dis, si c'est le pire qui m'est arrivé dans la vie, j'ai pas eu à combattre le cancer, j'ai pas eu à me sortir de ci et ça, j'ai pas eu à me sortir d'une faillite personnelle. Mais quand t'es 2 pieds dedans, ça fait mal,
mm-hmm.
OK? Alors, c'est merveilleux d'avoir une ressource d'amitié comme Marc et ma petite équipe de production qui est presque là depuis 30 ans, là.
j'ai perçu, puis je veux pas être effronté, mais j'ai perçu que nos petits rendez-vous du vendredi, à parler de choses humaines une fois de temps en temps, j'ai l'impression que, moi je sais que ça m'a fait du bien à certains moments de ma vie, j'ai l'impression que toi aussi.
Ah, ça m'a fait grand bien. Et ça m'a fait grand bien, comment je pourrais dire ça, donc particulièrement parce que rien de tout ça avait été prévu.
Ouais.
Tu sais, moi, je me suis envenu à Québec un certain matin en me disant que je m'en venais dans un terrain pas hostile, dans un terrain carrément miné. OK? J'ai dit à notre directeur des relations publiques, mais oh, puis on n'y va pas. Mais pourquoi on n'y va pas? Voyons donc. Ah, il rit de nous autres, puis il nous démolisse tout le temps, puis... Bon, ben oui, ben on va y aller. Raison de plus pour y aller.
Ah oui.
Alors, et il y a une magie qui s'est installée à ce moment-là quand on a ouvert la porte du studio. Mais la magie, c'est pas tant magique que ça. Dans le fond, on est tous des communicateurs. Peu importe comment on communique, dans la forme et dans le fond, la chose qui nous unit, c'est la passion de communiquer.
Oui.
Un peu de talent, on l'espère, mais surtout la passion et le désir de le faire. Et donc, à partir de ce moment-là, on a eu une superbe chimie qui s'est installée et qui a duré encore. Mais à travers tout ça, Denis, sans être capable de cibler ton auditrice cible ou ton auditeur cible, ou peu importe les personnes qui vous écoutent, j'en suis venu qu'à les imaginer dans ma tête. Mm. Peu importe l'âge, peu importe les croyances, peu importe le bagage ethnique, peu importe tout ça, j'en suis venu qu'à trouver un immense réconfort, pas juste par Véro, Audrey et toi, mais aussi par tous ces gens extraordinaires qui prenaient le temps de nous écouter le vendredi et qui réagissaient beaucoup. Ça, écoute, ça a été tellement touchant, de tous les messages que vous avez partagés. C'est devenu une thérapie pour moi.
Pierre, je te considère comme un mentor. Véro te considère comme un mentor. Audrey aussi. Beaucoup de collègues de travail. Puis je le vois quand physiquement tu viens. T'impressionnes beaucoup de mes collègues de travail.
Ah, mais c'est pas mon but.
je sais, mais je veux transposer ça à un autre étage. En 50 ans de carrière, les mentors de Pierre Houde, ça a été qui? Les gens qui t'ont impressionné, qui t'ont marqué, puis qui t'ont permis de durer tout ce temps-là?
Oh, ben écoute, il faut que je commence à mes débuts à la radio. Pour moi, le prototype parfait, c'était Jacques Proulx. Bon, pour ceux qui connaissent pas Jacques Proulx, vous connaissez peut-être plus son frère Gilles, qui a été journaliste, chroniqueur, pour ne pas dire polémiste.
Oui, on peut dire polémiste.
et la fille de Jacques, Caroline, qui était ministre du tourisme jusqu'à tout récemment, qui est maintenant ministre de la condition... est-ce que c'est les aînés? Ministre des aînés,
oui,
maintenant?
Oui, je pense que oui.
Parce que dans le remaniement, c'est ce qu'elle fait maintenant, Caroline. Bref, Jacques, pour moi, c'était... La référence absolue. Il pouvait faire de l'humour tellement gras et après ça, lire un poème de Nelly Gant avec une grâce et avec une distinction. Et tout ça, Denis, à la grande station à l'époque, il s'opérait lui-même. Mm. Hey, il fallait que tu passes au réseau, à la circulation, au bulletin de nouvelles, à la météo. C'était une bête de radio et je voulais être Jacques Proulx dans ma carrière de radio. À la télé, c'est pas très compliqué. René Lecavalier a été et est encore aujourd'hui une grande référence, une grande inspiration. Garneau aussi, mais Garneau plus pour les Olympiques.
Ouais.
Mais René Lecavalier, écoute, a été non seulement notre influence marquante, mais c'est notre bâtisseur. C'est lui qui a bâti le langage de la description du hockey à la télé.
J'ai entendu beaucoup de gens te le dire cette année, puis j'étais content. Je veux savoir comment tu trouves ça. Il y en a beaucoup qui te le disent maintenant. Tu es le René Lecavalier de notre génération.
Ben, écoute, ça me touche tout le temps à chaque fois qu'on me le dit. Moi, je dis toujours qu'il n'y a qu'un seul René Lecavalier, parce que on peut être un héritier. Mais peut-on être René Lecavalier dans le contexte de l'époque? Absolument pas. Mais est-ce qu'on peut être un héritier de ce qu'il a laissé? J'essaie probablement de l'être quotidiennement, et j'accepte le compliment qu'on me fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé de René particulièrement, et donc de son influence, Denis, c'est pas seulement sa performance, mais c'est aussi son humilité à lui. Parce que René était capable d'admettre son insécurité. C'était un grand insécure, René Le Cavalier. On lui donnait parfois des assignations, comme une que j'ai partagée avec lui.
Ah oui.
On lui avait donné l'animation de la NFL le dimanche après-midi. Puis il avait dit, j'aimerais avoir le jeune Hood avec moi, parce que je ne connais pas très bien tous les rouages de la NFL. Et ce jeune homme-là, passionné de football, qui en fait déjà chez nous, j'aimerais l'avoir à côté de moi. Et tu t'imagines, j'arrive en studio, je portais pas à terre. Et puis, et c'est là que j'ai pu parler avec lui, lui demander des conseils. Et il disait souvent, nourris ta faculté d'émerveillement. Ça, c'est le conseil qu'il donnait à tout le monde. Mais il me disait aussi des choses dont il était pas fier. Il était pas fier de lancer compte. Imagine-toi, c'est lui qui l'a créé. Il disait, Pierre, on peut pas compter un but. On peut compter jusqu'à 10, on peut compter sur quelqu'un, mais on peut pas compter un but.
Ah, il l'aimait pas, celle-là, rétroactivement.
Puis il était déçu. Puis il dit, dites pas ça si vous faites du hockey un jour. Ben, je dis, René, qu'est-ce que je devrais dire? Ben, dites le but, simplement. Alors, tu vois, et Garneau avait été dans ce sillon-là.
Ouais.
Alors, bref, ce que j'ai retenu beaucoup de René, c'était d'abord sa livraison fantastique, mais aussi sa capacité de se remettre en question et d'admettre son insécurité.
Mm. Pierre, je vais te demander un choix impossible. Au-delà de la fréquence, au-delà de l'argent, on ne parle pas de conditions de vie ou de qualité de vie non plus. Je te demande juste d'en choisir un entre les deux puis de laisser tomber l'autre, le hockey ou la F1.
Ah, ben je choisis le hockey. Mais c'est pas juste du cœur. Puis je comprends que c'est pas juste l'argent et tout ça. Mais comment ne pas choisir l'un des tissus fondamentaux de qui nous sommes, Denis?
Mm.
La F1, oui, merci à Gilles, merci à Jacques, son fils, merci à tous ceux qui ont tenu à bout de bras à une certaine époque le Grand Prix du Canada. Ce n'est pas dans notre histoire fondamentale. Le hockey, c'est...
On est tricoté avec le hockey.
Ben, non seulement on peut dire le Québec, mais souvent les anglophones ou le reste du Canada me dit « Hey, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui unit... » Terre-Neuve-Labrador, les territoires au nord et Victoria en Colombie-Britannique.
Le hockey.
Qu'est-ce qu'il y a autre chose?
Ouais.
Alors, bien sûr que je choisirais le hockey.
Comment tu vois la suite de ta carrière, puis comment tu planifies la suite de ta carrière? Sais-tu, je sais pas moi, en fonction de dire... Je vais voir le Canadien gagner une Coupe Stanley, puis après ça, je vais voir si je continue ou pas. Comment tu planifies la suite de ta carrière?
C'est drôle, hein, parce que beaucoup de gens associent « Ah, ça doit vous manquer de ne pas avoir décrit une Coupe Stanley du Canadien.
Mm. »
Oui, ça me manque, mais je vais vous dire une chose. J'étais pas mal choyé quand j'étais adolescent, parce que je me suis gavé des Coupes Stanley du Canadien dans les années 70. Et sais-tu qu'est-ce qui me fait... probablement plus plaisir aujourd'hui, c'est que je suis capable d'avoir un lien avec les Serge Savard de ce monde, avec Bob Gainé. Bob m'a écrit un message personnel tellement beau pour mes 50 ans de carrière. Ça m'a tellement touché. Serge aussi, avec qui j'ai développé une très belle amitié, avec d'anciens joueurs et tout ça. Ça, pour moi, c'est plus fort que d'écrire une Coupe Stanley. Ben oui, j'aimerais ça, Denis, bien sûr. Mais tu sais, d'écrire le but de Sidney Crosby à Vancouver, c'était quelque chose, ça aussi. D'écrire 6 médailles d'or dans la carrière du Usain Bolt, c'est pas pire, tu sais. Donc, c'est pas un manque, là, un manque intraveineux que de décrire une conquête de Coupe Stanley du Canadien. Moi, j'aimerais ça bien plus pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que pour moi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Oui.
Ça, pour moi, c'est l'essentiel.
Mais quand t'es conducteur, puis que tu vois t'es pas dans l'autobus.
C'est très dur.
Ça doit être très dur.
La première année qu'on a perdu les séries, j'étais en plus en isolement voulu avec mon ex-épouse à l'époque. Et donc, je me sentais tellement tout seul. Là. C'était très, très difficile.
Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as fermé la TV puis que tu bougonnais? Est-ce que tu regardais la TV en anglais?
À
est-ce
peu
que
près
tu regardais
ça.
La TV en français en chiolant?
À peu près tout ça. J'ai fait à peu près tout ça dans...
toutes les stades.
En séquence. mais ça a commencé par le bougonnement. Mais c'est très dur, qu'est-ce que tu veux.
Écoute, c'est normal.
Mais après ça, tu relativises. Puis après ça, ben, tu dis, écoute... Et ce que j'ai toujours trouvé, moi, que les gens oublient, c'est que nos compétiteurs, entre guillemets, furent à une certaine époque nos collègues de travail.
Ben oui.
Alors, Félix Séguin, puis Patrick Lalime, puis Louis-Philippe Neveu qui dirige TVA Sport et tout ça, ce sont tous des gens qu'on a côtoyés avec beaucoup de plaisir à RDS à une certaine époque. Donc, il y a une certaine fierté de les avoir bien formés pour faire ça. Et puis là, qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas à quel moment nos amis nous écoutent ou nous regardent, Denis, présentement, mais on va savoir bientôt comment les droits de diffusion du hockey vont se partager.
Ça te fait-tu peur, ça?
Ben, ça me fait peur, oui et non, parce que, écoute, j'ai sauté à pieds joints dans RDS en 89 en me disant « ça va probablement durer 6 mois ». On est rendu à 37 ans. Ouais. Donc, ma peur, elle était beaucoup là. Ma peur a été quand on a perdu les droits exclusifs du hockey avant qu'on comprenne ce qu'on gardait. Mes vraies peurs ont été là. Moi, je pense que ce qui s'en vient, je ne le sais pas encore au moment où on se parle et où on a cette discussion, mais je suis très confiant qu'on va garder une partie de la propriété hockey. Est-ce qu'il y aura d'autres intervenants? Fort probablement. Personne n'a les moyens de l'exclusivité en français au Québec.
Ça, c'est sûr.
Puis je pense que si M. Péladeau était assis à côté de nous, il dirait « t'as raison, Pierre ». Puis si c'était des plateformes, il dirait « t'as raison, Pierre ». On est obligé d'accepter de partager si on veut continuer à avoir une offre de qualité pour les gens. On a renouvelé la F1 RDS pour un grand bout de temps. Et je crois comprendre qu'il y a un intérêt mutuel entre RDS et moi, qu'on continue encore un bout. Écoute, que demander de plus, Denis, à là où j'en suis dans ma vie, la perspective de pouvoir continuer après 50 ans de métier.
Te vois-tu prendre ta retraite ou t'es quelqu'un qui va toujours vouloir continuer, rester connecté d'une façon ou d'une autre? Tu te vois-tu profiter d'une retraite à rien faire pendant une journée, pendant une semaine, pendant un mois,
au moment
quand la saison de hockey recommence?
Au moment où tu me poses cette question-là, non, je ne me vois pas. Mais il faut pas fermer la porte à ce que la vie t'amène là où j'en suis rendu. Je te l'ai dit, j'ai été chanceux, je n'ai jamais eu de maladie grave dans ma vie et j'en remercie la Providence tous les jours. Mais j'ai eu un épisode de santé récemment qui est pas grave, mais qui est extrêmement douloureux et qui me rappelle que il y a personne qui est à l'abri d'un moment qui va venir t'arracher beaucoup de douleurs d'abord, qui va te donner des soucis ensuite. Parce que quand t'es pas malade, tu te dis, voyons, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, pilote.
Ouais.
Et qui t'enlève beaucoup d'énergie, parce qu'on dépense plus d'énergie à mon âge pour récupérer, pour combattre des maladies. Donc, tu peux pas te dire, je suis à l'abri de ça. Donc, si tu me reposes la question dans un an ou deux, peut-être que ma réponse sera la même ou sera différente. Présentement, j'ai pas le goût d'arrêter. Honnêtement, et je le dis avec toute la modestie dont je suis capable, je me sens au sommet de la vague. Je surfe, là. J'ai le contrôle de ma planche. J'ai le contrôle de ma vague et elle m'enivre, ma vague. C'est fou l'amour que je reçois présentement. C'est presque... Ça m'amène presque aux larmes, Denis. Je ne sais pas comment le dire, puis je ne sais pas comment l'absorber. Puis toi, quand je te parle, tu me dis tout le temps, ben prends-les.
Oui.
Puis ma blonde, elle me dit la même chose, Lynn, mais je ne suis pas capable de tout le prendre. Ça me gèle en même temps que ça me réchauffe. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Très bien.
Fait que pourquoi, comme j'ai répondu à la dernière question d'un journaliste de la presse écrite récemment, pourquoi arrêter le plaisir?
Pierre, bravo pour tes 50 ans de carrière, évidemment, mais surtout merci pour cette conversation-là. Merci d'avoir pris le temps. Je te considère comme un ami très cher, comme un mentor. Puis ces partages-là qu'on a ensemble, je les apprécie toute la gang, que ce soit à distance, que ce soit dans le même studio de podcast. Tu reviens quand tu veux, retraite pas retraite, t'as le goût de jaser avec le monde de Québec, t'es toujours, toujours le bienvenu. Je t'aime beaucoup, Pierre.
Et c'est très réciproque, mon cher Denis, et j'aurai toujours une affection très particulière pour tous ces gens qui ont été tellement fin de nous suivre le vendredi.
De nous endurer. Oh,
des fois, je me disais...
dans nos
dérapages. Des fois, je me disais, mais comment ils font pour savoir où on est rendu?
Ça fait 10 minutes qu'ils parlent de Rick Wakeman. Ils vont-tu faire autre chose?
Non, mais là... et puis quand Véro m'envoyait des copies de commentaires, là, c'était le grand réconfort. Je disais, oh mon Dieu, ils nous suivent dans notre folie.
Ouais.
Alors, merci vraiment. Et puis, c'est pas parce qu'on n'a plus la continuité qu'on ferme tout. Nous allons troquer la continuité pour la qualité.
Et voilà, et c'était un très beau moment de qualité.
Merci beaucoup, Denis.
Le podcast hors série. Une présentation de Chaloux, le paradis de la bière à Québec. Plus de 1000 sortes de bières pour tous les goûts. De la micro d'exception à la micro de soif parfaite. Deux succursales, Beauport et Saint-Émile. Santé!